Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, chef d'État, homme politique, poète, essayiste, Léopold Sédar Senghor a revêtu tous les habits, y compris l'habit vert, celui des académiciens, puisqu'il est entré à l'Académie française en 1983. Canal Académie consacre toute une série d'émissions à l'ancien président de la République du Sénégal. Dans cette émission Éclairage, nous recevons l'ancien garde des Sceaux, Jean Foyer, pour évoquer la mémoire de Senghor. Monsieur le ministre Jean Foyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie pour Léopold Sédar Senghor, plus exactement l'homme politique qu'il a été. Je rappelle à nos auditeurs, juste rappel, que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Foyer, et que vous avez côtoyé Léopold Sédar Senghor dans vos fonctions politiques, mais également au sein de l'Institut de France. Alors, racontez-nous, si vous le voulez bien, son périple politique.
Écoutez, je vais vous raconter en quelques mots quelle a été la poursuite de la carrière politique de Léopold Senghor jusqu'à 1958, jusqu'à à l'élaboration de la Constitution. Française du 4 octobre 1958, époque à partir de laquelle j'ai bien connu Senghor et j'ai négocié ou travaillé avec lui. Alors auparavant, vous savez que Léopold Senghor était un agrégé
de grammaire,
qu'il a été professeur dans plusieurs lycées français, et qu'en 1946, je crois, il est devenu député. Il est devenu député du Sénégal, et à cette époque-là, il était député socialiste. Il était allié au vieux Lamine Gueye, qui était maire de Dakar. Par la suite, Léopold Senghor a pris du champ par rapport aux socialistes, et il a constitué à l'Assemblée nationale un petit groupe
qui s'appelait
le groupe des indépendants d'outre-mer, et il a constitué des partis politiques au Sénégal, et il s'est taillé au Sénégal une espèce de principauté, puisqu'il en est resté le patron jusqu'à 1981. Et il a donc été amené à participer très activement à tout ce mouvement qui a abouti au total, pour finir, par faire du Sénégal, qui était à ce moment-là un territoire d'outre-mer français, colonie française, à en faire un État indépendant. Alors, je commencerai, si vous voulez, mais là-dessus, M. Mesmer pourrait vous en parler encore avec plus de compétences que moi, de la loi cadre de 1956.
Oui, tout à fait, puisqu'il a participé. Hein.
Alors, cette loi cadre, c'était une loi qui tendait à réformer le statut des territoires d'outre-mer, et assez raisonnablement, le gouvernement de l'époque, pensant qu'il fallait, si on s'engageait dans la discussion parlementaire, on n'en sortirait jamais, avait déposé un texte qui était en réalité une loi de plein pouvoir, qu'on a baptisé de loi cadre, et qui autorisait, en partant de principes qui étaient proclamés dans la loi, qui autorisait ensuite le gouvernement, par décret, à réorganiser à nouveau les territoires d'outre-mer en leur donnant une très large indépendance et qui était presque à la limite déjà de l'autonomie. Mais alors, à propos de la loi cadre, c'est là qu'on voit apparaître Léopold Senghor, qui avait été précédemment secrétaire d'État dans un gouvernement de la 4e République, de le voir intervenir et livrer une bataille qu'à ce moment-là, il a perdue, qui était la question de savoir si cette décentralisation très poussée, qu'il était question de donner aux territoires d'outre-mer, on allait leur donner au niveau de chacun des territoires, notamment des 7 ou 8 territoires qui composaient l'AEF, ou bien si on allait la donner à chacune des deux grands groupes de territoires, qui étaient l'AOF et qui étaient l'AEF. Et alors, le gouvernement avait prévu d'appliquer son nouveau régime, qui se caractérisait par la création d'un conseil de gouvernement dans chaque territoire, de l'appliquer territoire par territoire, et de ne pas l'appliquer dans ces grandes fédérations. Il y avait là-dessous un conflit sous-jacent, qu'on comprend d'ailleurs tout à fait bien, entre d'un côté le Sénégal et Senghor, et d'autre part la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, qui était à la tête du pays le plus riche de l'AOF,
qui lui voulait une indépendance totale,
trouvait que l'AOF coûtait très cher et ne rapportait pas grand-chose à la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin du port de Dakar et qu'elle ne s'en servait pas. Tandis que Senghor, lui, était partisan.
Senghor était pour le fédéralisme.
Que si l'on faisait la décentralisation qui allait tourner à l'autonomie, et d'ailleurs plus tard à l'indépendance, au niveau des territoires, le Sénégal allait se trouver avec une capitale hypertrophiée dans sa situation, si vous voulez, de Vienne, dans l'Autriche, après la Première Guerre mondiale. Alors, Senghor a mené campagne pour obtenir qu'on ordonne, qu'on décentralise au niveau des groupes de territoire, et il a critiqué la méthode inverse sous le nom de balkanisation de l'Afrique. Mais il n'a pas gagné. Mais par la suite, il y a eu des élections pour reconstituer, pour réélire les assemblées territoriales, et dans la plupart de ces territoires, c'est le parti d'Oufouette Boigny, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui l'a emporté, et Senghor a été nettement minoritaire. Mais pendant toute cette période, l'agitation a continué, et alors que la Glocard ne parlait que de décentralisation, à peine d'autonomie, vous avez eu un courant assez fort qui s'est développé dans l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique de l'Ouest, en faveur d'un nouveau mode, d'un nouveau régime d'association de ces territoires avec la France.
Suite à la conférence de Bandung ?
Mais les nôtres n'y étaient pas à Bandung encore. Mmh. Ils ont subi l'influence de la conférence de Bandung, qui était d'ailleurs antérieure à la loi cadre. Alors, les uns disaient, ceux qui étaient partisans de l'autonomie au niveau des groupes de territoire souhaitaient que ces groupes fussent déclarés indépendants et ensuite de conclure avec la France un traité, une convention de confédération.
Confédération.
Quant aux autres, c'était le parti d'Oufouette Boigny, ils voulaient que chacun de leurs territoires devint séparément un pays autonome et que ces pays fussent reliés avec la France dans une organisation non plus confédérale, mais fédérale. Voilà les deux thèmes. Alors, là-dessus, la situation était très compliquée parce que, en principe, le RDA d'Oufouette Boigny était partisan de la deuxième thèse, mais dans ce RDA, il y avait des hommes politiques africains qui, en réalité, rêvaient de l'indépendance, ce qui s'était d'ailleurs vu au congrès du RDA à Bamako,
au Mali,
au milieu de l'année, qui ne s'appelait pas Mali encore, qui s'appelait Soudan à ce moment-là, au milieu de l'année 1957. Et puis alors arrive la fin de la 4e République, le retour aux affaires du général de Gaulle, la mise sur le chantier d'une nouvelle constitution que le gouvernement français devait préparer et qui devait soumettre au référendum. Et la loi du 3 juin 1958, qui réglait cette procédure de révision de la Constitution, énumérait les principes que le projet du gouvernement devait mettre en œuvre, dont le cinquième était que la Constitution devait permettre d'organiser les rapports nouveaux avec la France des pays qui lui étaient associés. Et pour l'élaboration du texte constitutionnel, après que le gouvernement ait élaboré un projet, un avant-projet, le gouvernement devait le soumettre à un comité consultatif constitutionnel, le plus souvent désigné par ses initiales de CCC, et ensuite au Conseil d'État. Ma connaissance personnelle de ces affaires a commencé là. Pourquoi ? Parce que le garde des Sceaux, qui était Michel Debré, chargé de préparer l'avant-projet de constitution, avait réuni un petit groupe de travail autour de lui et il avait demandé au ministre d'État d'envoyer un représentant à ce groupe de travail. Alors, Oufouette Boigny ne connaissait pas de juriste. Il est parti à la recherche d'un juriste et il s'est adressé au président du Sénat qui était Gaston Monnerville. Et Gaston Monnerville ne connaissait non plus personne et avait demandé à son chef de cabinet, qui s'appelait Jean-Michel Quintard, de lui trouver quelqu'un. Or, Jean-Michel Quintard et moi, nous avions été, en 1958, au cabinet de René Capitan à l'Éducation nationale. Alors, Quintard m'a demandé si ça m'intéressait d'y aller. Moi, j'étais à ce moment-là professeur à la faculté de droit de Lille.
Donc, c'est vous qui avez fait partie.
J'ai accepté tout de suite, et puis j'ai donc participé aux travaux de ce groupe de travail, Et j'ai même participé directement avec Michel Debré et un autre de ses collaborateurs qui s'appelait Jérôme Solal-Sélini à l'élaboration du texte concernant les rapports de la France avec les pays d'outre-mer qui a été soumis au comité consultatif constitutionnel. Alors, à ce comité consultatif constitutionnel, on a retrouvé Senghor, qui avait été désigné par la commission compétente de l'Assemblée nationale. Et on avait en face, il y avait un représentant du RDA, qui était Gabriel Lisette, qui était à ce moment-là député du Tchad, plus le vieux Lamine Gueye qui se retrouvait tout de suite, et le président de Cyrane, qui était malgache. Alors, le projet du gouvernement prévoyait d'instituer une fédération entre la France et chacun des territoires d'outre-mer qui seraient devenus des États autonomes. Alors, au contraire, Senghor s'élevait contre cette organisation. Et il voulait qu'au lieu d'organiser une fédération, on organisa une confédération. Et comme le projet du gouvernement prévoyait que les territoires d'outre-mer auraient le choix entre trois partis différents, rester territoire d'outre-mer, devenir département français ou devenir État membre de la fédération, Alors Senghor voulait qu'on leur offre un quatrième parti, qui était celui de constituer une confédération, qui devienne indépendant tout de suite et qui devienne une confédération. Alors, c'était un problème très difficile parce que moi j'étais commissaire du gouvernement devant le comité consultatif constitutionnel et la consigne que nous avions su c'était de nous opposer à ce qu'on offre un parti de confédération dans le projet parce qu'à partir de ce moment-là tous les États auraient choisi la confédération et c'était désavoué Fouette Boigny qui était ministre et d'autre part on risquait d'avoir quelques rebondissements en Algérie si d'entrée de jeu, on offrait l'indépendance au territoire d'outre-mer, d'avoir une révolte des pieds noirs et d'une partie de l'armée. Alors, on a été obligé de négocier comme on a pu. Finalement, on a réussi à faire abandonner les deux termes empoisonnés de fédération et de confédération et d'y substituer le terme de communauté, qui était une espèce de fédération. Bon, Senghor n'était pas très satisfait. Mais tout de même, il a fini par s'y rallier. Il a fini par s'y rallier parce que le général de Gaulle avait reconnu, en somme, le droit à l'indépendance. Car il avait annoncé que le vote d'un territoire d'outre-mer sur le projet de constitution ou référendum aurait le sens ou d'accepter la constitution et de rester dans l'ensemble français ou au contraire de la rejeter, s'il la rejetait, de devenir indépendant. Et comme d'autre part, la Constitution prévoyait qu'ensuite les États devenus membres de la communauté pourraient devenir indépendants par décision de leur assemblée territoriale ratifiée par un référendum, il avait considéré que les aspirations à l'indépendance étaient suffisamment satisfaites et il a quand même recommandé le vote « oui » au Sénégal. Il avait d'ailleurs aussi bien fait parce qu'à l'époque, les Sénégalais, de toute façon, auraient voté oui. Bon. Seulement, restait à ce moment-là un deuxième problème, c'était celui de savoir si on adoptait le cadre de la communauté, si à l'intérieur de la communauté, les territoires d'outre-mer allaient devenir séparément membres de la communauté ou s'ils allaient devenir groupés. Alors, on lui avait accordé une certaine satisfaction en disant qu'il pourrait adhérer à la communauté, groupée ou non.
C'est ce qu'il a essayé de faire, justement.
Alors, c'est ce qui a été fait au départ, mais au départ, le Sénégal et le Soudan étaient tellement pressés qu'ils ont adhéré distinctement, séparément, à la communauté avant de constituer un groupe. Alors, ça, c'est sur quoi ils se sont mis à essayer de constituer une unité et de remembrer, en quelque sorte, l'ancienne Afrique occidentale. Seulement, l'opération n'a été qu'à moitié réussie, car au départ, ils avaient cru pouvoir englober quatre États, le Sénégal et le Soudan, la Haute-Volta et le Dahomey.
Le Burkina, en fait, la Haute-Volta.
Qui est devenu la Haute-Volta qui est devenue le Burkina Faso, et le Dahomey qui est devenu le Bénin. Mais où Fouette Boigny a réussi à décrocher la Haute-Volta et à l'empêcher d'adhérer à la Fédération, et le Dahomey, qui n'avait plus de frontières communes avec le Soudan et le Sénégal, s'en est retiré lui aussi. Alors, la Fédération s'est donc constituée à deux, simplement avec le Sénégal et le Mali.
Ça n'a pas duré bien longtemps.
Ça s'est disloqué de la manière suivante. La Fédération du Mali étant créée, a été élue une assemblée fédérale du Mali, et Senghor en a été élu le président. Et dans son discours d'ouverture, il a défini une méthode qui au total a été celle selon laquelle les pays d'Afrique sont devenus indépendants. Il a suggéré que la fédération nouvelle, réduite à deux États, entreprit de négocier avec la France des accords successifs de transfert des compétences de la communauté, de telle sorte qu'après, au total, quand toutes les compétences auraient été transférées, leur pays serait devenu indépendant. Mais pour un premier temps, il fallait, et alors c'est finalement ça ce qui s'est réalisé, puisqu'ils ont demandé, au début du mois de septembre 1959, ils ont demandé le transfert des compétences de la communauté, qu'on a entrepris à ce moment-là une négociation, c'est moi qui l'ai conduite, qui a abouti à l'adoption de conventions qui ont été signées à l'hôtel Matignon le 2 avril. Alors, à partir de ce moment-là, la Fédération du Mali était devenue indépendante, Senghor étant président de l'Assemblée fédérale. Mais les choses n'ont pas passé ensuite comme il était prévu. Cette fédération était faite de deux morceaux qui étaient peu compatibles l'un avec l'autre, et elle a failli se casser déjà au mois de mai 60, avant même la proclamation de l'indépendance. Et puis elle s'est finalement disloquée au mois d'août. Alors à partir de ce moment-là, le sort du Sénégal et celui du Soudan se sont séparés. Le Soudan a pris le nom de Fédération du Mali. Le Sénégal est devenu un État indépendant. Et Senghor a été élu président de la République du Sénégal. Et il est resté 20 ans. C'est une performance qui était tout à fait remarquable dans un pays pareil, car Senghor, quelles que fussent ses capacités intellectuelles, qui étaient énormes, il avait quand même cette faiblesse dans ce pays, qu'il était de religion catholique, alors que le Sénégal doit être à peu près à 98% musulman.
Et il restera pendant 20 ans.
Pendant 20 ans, il est resté président. Et il a fait un passage de main de la présidence qui a été tout à fait réussi en mettant en place, à sa place une personnalité musulmane cette fois.
Abdou Diouf.
Abdou Diouf, mais qui était un homme très bien. Alors, et à ce moment-là, Senghor s'est retiré. Il s'est retiré en Normandie et c'est là qu'il est mort avant qu'on transporte son corps au Sénégal où il a été inhumé.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous nous quittons. Merci Jean Foyer de nous accorder cet éclairage sur Léopold Sédar Senghor. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt. Merci.